Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur un événement ou une problématique qui marque l'actualité cyber. Alors avant de commencer, je voudrais vous indiquer que nous allons faire notre possible pour diffuser un épisode par semaine. Cet épisode sera mis en ligne le dimanche soir afin que vous puissiez l'écouter dans les transports le lundi matin. Je voudrais aussi remercier nos auditeurs qui participent à nous faire connaître en nous suivant sur Twitter, en nous retweetant quand nous publions un nouvel épisode. Et je voudrais remercier tout particulièrement les personnes qui nous font des feedbacks. Ça nous fait super plaisir et ça nous incite à continuer. Alors aujourd'hui, un épisode spécial avec un invité. Nous recevons aujourd'hui Ange Albertini qui va nous parler de la problématique des formats de fichiers. Et les contributeurs Nos Limites Sécu sont Eric Fraissinet.
Bonsoir.
Jean-François Audenard.
Coucou.
Nicolas Ruff.
Hello.
Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, Ange, bonjour.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce podcast. Nous allons donc parler de la problématique des formats de fichiers et plus particulièrement du talk que tu as réalisé au CCC il y a quelques mois. Alors, lors de l'introduction de ton talk, l'introduction était tout simplement bluffante. Tu montres qu'un fichier image peut également être exécuté comme un fichier JAR. Tu montres qu'en chiffrant ce fichier en AES, on peut obtenir un autre fichier, enfin un fichier PNG. Qu'en déchiffrant ce même fichier en 3DS, on obtient un PDF. Et que si on chiffre toujours ce même fichier en AES 256 avec une clé différente, on obtient une vidéo. Alors, j'ai envie de te demander, comment cela est-ce possible ?
Ben, tout ça, c'est un peu progressif. Alors déjà, la partie initiale, l'image avec le Java à la fin, ben, l'image, il faut que les données de l'image elle-même soient à l'offset, au déplacement zéro. Ensuite, le Java, c'est un archive Java, donc un jar, et c'est en fait un zip, et ça, en fait, c'est parsé par le bas, donc à la fin du fichier. Donc, juste par simple concaténation, on a un archive Java et une image valide. Et d'ailleurs, c'était ça, un des premiers polyglottes de fichiers qui était utilisé in the wild pour faire des attaques, déjà en 2006 ou 2008, les GIFAR, c'était des GIF et des Java, et d'ailleurs, même sa propre page Wikipédia, quoi. Donc, une technique toute simple de concaténation pour bypasser la sécurité, c'était sur les forums Yahoo, un truc comme ça, avec pour bypasser la same origin policy. Bon, alors ensuite, l'histoire des chiffrements, on m'avait, comme challenge impossible, on m'avait dit, est-ce que tu peux chiffrer un fichier JPG en autre fichier JPG? Et à l'époque, ça s'était jamais fait. Alors, faut dire une chose, c'est que je suis nul en crypto, mais j'ai eu quelques trivialités de Jean-Philippe Aumasson, qui m'a fait un cours rapide. Et après, avec un peu de magie crypto et un peu de magie de format des fichiers, on arrive à avoir les données originales du fichier source et des données prédéchiffrées qui, après chiffrement, vont devenir un autre fichier cible. Et ensuite, on joue sur les formats de fichiers internes, sur les structures internes des formats de fichiers, pour que les parties chiffrées ou déchiffrées, qu'en fait on ne contrôle pas, puisque quand même c'est de la crypto normale, soient simplement ignorées par les parseurs de chaque format cible ou source. Et ensuite, il suffit simplement de combiner ça. Il y a quelques restrictions, mais on peut combiner ça avec plusieurs formats de fichiers, donc tels que je me suis amusé à le faire pour l'intro du CCC.
Et tu es en train de nous dire que quoi ? C'est les formats de fichiers qui sont foireux ou les programmes qui parsent les formats de fichiers qui sont foireux aussi ? Ou les deux ?
C'est déjà l'histoire de chiffrement et de survivre. Déjà, il n'y a rien de foireux. C'est juste que les formats de fichiers modernes, ils sont prévus pour intégrer des données externes au cas où pour compatibilité future. Donc déjà, ça c'est même normal. Après, il y a quand même du laxisme de la part de beaucoup de parseurs, notamment le ZIP, qui devrait être un peu à mes yeux revu et corrigé parce que parser par le bas, autoriser n'importe quel offset. C'était l'histoire de parser par le bas, c'était pour minimiser les swaps de floppy à l'époque où on faisait une archive à la volée sur plusieurs disquettes, quoi. Donc maintenant c'est plus trop utile, et au contraire certains disent bon ben on va arrêter de parser vers le bas parce que c'est vraiment obsolète, et c'est donc ils parsent d'une autre façon, et c'est ça qui a introduit le bug Android Master Key il y a un an ou deux, où c'était donc tout le signature Android qui était cassé parce que certains parsaient par le bas, et la vérification de la signature et l'exécution étaient deux parsings différents du zip, et donc on pouvait manipuler, on pouvait tricher avec la signature. Donc parce qu'il y en a un qui parsait à l'ancienne, comme il faut, peut-être, on va dire, et l'autre qui parsait à la Jones par le haut sans se poser de questions, quoi.
Alors, comment c'est utilisé par les attaquants ces mauvais comportements?
Ben déjà, ça permet effectivement de faire des bypass très simples. Donc le scénario classique, encore une fois, on upload sa photo sur le forum Yahoo. Maintenant, on a la photo qui est uploadée, et après la photo, dans le même fichier, il y a une applet Java malveillante. Et comme elle est maintenant hébergée sur Yahoo, ben elle est utilisable dans les domaines Yahoo, et ça bypass le same origin policy. Donc ça, c'est le cas de base. Et puis après, c'est un peu toujours la même chose. Il suffit que un format de fichier coexiste dans un autre. Et par exemple, on upload, on ne prend qu'un PDF, et on pourrait faire un PDF qui est aussi un exécutable Windows, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est toujours pour bypasser les filtres sur des formats de fichiers. C'est valider un format de fichier, mais aussi, est-ce que par hasard, il n'est pas possible qu'il y ait un autre format de... un autre type de fichier dans le même un autre type de format dans le même fichier.
Est-ce que tu as déjà fait des études ou une revue pour voir quel format de fichier se recouvrait beaucoup, à part ceux qui sont faits pour ça, les fichiers OLE de différentes formes, ils se recouvrent évidemment, tu vas avoir des choses qui sont les mêmes. Mais est-ce que entre des fichiers qui devraient pas se ressembler du tout parce que ça n'a rien à voir, il y a des recouvrements au-delà de la signature, mais la structure même du fichier, par exemple, qui pourrait permettre de l'ouvrir avec, je sais pas moi, un fichier de documents qui s'ouvrirait facilement sous VLC parce qu'il y a des structures de vidéos ou autres dedans.
Ben en fait, c'est pas si mal parce que au niveau des formats de fichiers en général, parce que quand même la plupart imposent une signature au déplacement zéro. Donc déjà, ça empêche toute réutilisation du fichier. Et donc au final, il y a juste, c'est plutôt les cas exceptionnels comme PDF ou ZIP où là, on peut un peu faire ce qu'on veut, qui hélas sont largement répandus, qui hélas sont pas super bien documentés et qui sont pas parsés partout, enfin pas parsés correctement par tous les logiciels, enfin, en plus que les specs sont pas forcément très très clairs, et donc c'est eux qui plutôt créent le problème, mais par exemple un exécutable Linux et PE, bah, c'est impossible qu'ils soient ensemble, quoi. Ils imposent chacun une signature différente au déplacement zéro, quoi. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de possibilités, quoi. C'est simplement que, malgré cette restriction-là, j'essayais d'explorer un peu plus loin que ça, juste plus loin que la signature parfois.
Et les fichiers Open Document, par exemple, sont des fichiers ZIP. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution, ou est-ce qu'on aurait dû implémenter ça différemment?
Ben justement, c'est vendredi dernier, il y a puis aussi GTFO qui est sorti avec un gros article que j'ai écrit sur les formats de fichiers. Donc c'était un peu la version technique, le contrepoids technique de la présentation du CCC. Et justement, je me demandais pourquoi on n'a pas, puisque ZIP finalement c'est qu'une encapsulation deflate de l'algorithme deflate de Zlib, etc. Pourquoi est-ce que au lieu de garder cette structure qui date des floppy multivolumes, des disquettes multivolumes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste refait à une structure plus rigoureuse, quoi? Quand on voit des formats comme DEX ou des formats modernes qui sont bien fichus, Pourquoi est-ce qu'on garde encore le zip alors que si c'est juste pour garder des deflate, hein, on pourrait garder l'algorithme et changer la structure externe. Alors franchement, j'ai pas trop d'intérêt. Enfin, je comprends pas trop pourquoi on n'a pas essayé de virer zip qui quand même est laxiste, peut-être quoi. Un truc rigolo, par exemple, c'est que la spécification zip ne spécifie même pas le nom des variables le nom des membres de chaque structure. C'est juste une description. Donc vous avez le nom de la structure, genre end of central directory, et ensuite vous avez une description de trois lignes du premier membre et sa taille, mais il n'y a pas de nom de variable. Donc même si vous allez d'une lib zip à une autre, le nom des variables ne peut pas être les mêmes puisqu'ils ne sont pas spécifiés dans la doc.
Mais enfin, le zip, c'est quand même assez universel comme format. Enfin, je comprends que les gens qui implémentent... En fait, le problème de base, c'est comment tu fais pour faire un objet qui contient lui-même plusieurs sous-objets. Donc, par exemple, sous macOS X, ils avaient le resource fork, les choses comme ça. Mais comment tu fais pour envoyer ça par mail? Et le choix de zip comme conteneur universel, il est, on va dire, enfin, ça présente plein d'avantages parce que c'est supporté par tout le monde, quoi, par les antivirus, par les passerelles. Après, faut voir, enfin, sous Linux, il y a plein d'autres formats qui sont utilisés. Hein, le CPIO, par exemple, ou le TAR-GZ, ou même le TAR tout court. Il y a plein de trucs, les paquets Debian, tu vois, les points .deb, par exemple, réutilisent des formats standards, quoi.
Oui, c'est amusant que tu mentionnes le TAR qui vient des tape archives qui est avec la signature en octal. Ça, c'est encore plus vieux. Mais oui, au moins côté sécurité, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui sont plus, il y en a beaucoup d'autres qui sont plus logiques à utiliser que le zip maintenant. Ou alors, le zip évolue encore. Maintenant, il y a l'AES. On peut mettre du bzip2 dans le zip. Pourtant, la structure passer par le bas est toujours là, quoi.
Oui, mais attention, parce qu'il y a un autre. Enfin, il y a énormément de formats de compression. Je veux dire, tu as peut-être connu le ARJ, le ZO, le LHA, etc. Ben, aujourd'hui, il y a le XZ, il y a le 7-Zip, etc. Le problème, souvent, dans ces trucs-là, c'est les brevets. Il y a plein d'algorithmes que tu ne peux pas utiliser, même rares. Hein. Si tu regardes bien, tu peux faire du unrar librement. Mais si tu veux faire du rare, c'est pas public et il faut que tu prennes contact avec l'auteur.
Oui, mais me demandais juste.
Ah. Ouais, non, mais juste pour dire que si tu installes rare dans Linux, c'est dans les paquets non-free, quoi. Mais...
Non, justement, je me demandais juste pourquoi on réutilisait pas deflate, donc l'algorithme de zip, mais avec une structure plus simple, parsée par le haut et sans les trucs obsolètes, quoi. Mais justement, ils ont fait un peu la même chose pour les BIOS UEFI, où il y a le PE de Windows, donc il y a plein de structures qui sont obsolètes, et ils ont fait le TERS exécutable, qui est juste un PE avec beaucoup moins d'éléments. C'est juste, il y a les mêmes éléments que le PE pour les trucs qui comptent, et les autres, ils les ont enlevés. Bon, bah, pourquoi pas dire le zip, mais sans end of central directory à la fin et des choses comme ça, et il est toujours deflate derrière, quoi. Je demande pas que quelqu'un refasse un super format justement qui pourrait créer des problèmes de brevets, comme tu dis, mais simplement, bon, bah, maintenant, en voilà un peu moins, voilà, qui ressemble à l'icône de sauvegarde, quoi.
Tu connais ce fameux XKCD? T'as un mec qui se réveille en disant « Bon Dieu, c'est pas possible, il y a 14 formats de compression incompatibles, il faut absolument qu'on unifie tout ça, etc. » Situation suivante, il y a 15 formats de compression.
Oui, je suis d'accord, mais quand même, le zip, on aurait pu faire quelque chose, quoi. Surtout qu'il évolue, il y a l'AES et tout, et c'est plus du tout le même zip d'avant, quoi. La dernière version, qui contient toujours pas de nom de variable, elle date de 2000 quelque chose, quoi. C'est pas comme si on avait une doc de zip version DOS, quoi. Mais bon, voilà. Donc ça ne contribue pas à la sécurité, quoi.
Bah, au moins, on va dire que la dernière fois qu'il y a eu une faille dans Zlib, c'était il y a plusieurs années, donc au moins c'est du logiciel un peu testé, quoi.
Ah oui, le logiciel peut-être il est testé, mais pour garantir qu'il n'y ait qu'un seul type de fichier, comme a demandé Eric, là c'est plutôt mal parti, surtout que maintenant on peut mettre du Java, du OXML, du DocX, du APK dans le même zip, et voilà, tout le monde dans le zip, quoi. C'est un file system presque bientôt.
Et est-ce que la problématique n'est pas aussi du côté des parseurs?
Ah bah oui, ça c'est clair qu'il y en a qui ne s'embarrassent pas dans les raccourcis, il y en a c'est joyeux délire. C'est clair que ça aussi, c'est un autre problème. Et bon, il y a le problème des docs qui sont bizarres, mais surtout après, il y a l'interprétation. Parfois, c'est le délire, quoi. Donc, effectivement, et c'est ça aussi le truc, c'est que quand tu as une faille dans un parseur, ou voilà, une largesse, c'est comme ça qu'on dit, une largesse qui est prise dans un parseur. C'est pas un CVE, tu peux pas, c'est personne t'écoute sur, enfin c'est pas un truc pour full disclosure quoi. C'est même si ça fragilise les bases de la sécurité des logiciels, t'as rien planté, t'as pas de remote code exploitation, alors on s'en fiche quoi. Donc les parseurs ils restent voilà tels que. Donc par exemple il y a beaucoup de parseurs un fichier PDF commence en théorie par, enfin il doit avoir la signature PDF donc pour cent PDF tiré un point quelque chose. Bon bah il y a beaucoup de parseurs Linux ils la cherchent même pas la signature. Si elle est absente ils s'en fichent. Aucun warning ni rien, le fichier est ouvert, aucun problème.
D'ailleurs, dans ton talk, tu fais voir qu'un même fichier PDF peut montrer des contenus différents en fonction du reader, quoi.
Ah oui, bah ça, là il y a un petit côté quand même de l'aspect qui est pas super clair. Et ensuite, effectivement, il y a pris les largesses des parseurs. Alors ce PDF, ils ont fait un peu. Après, il y a le sous-standard, le PDFA, qui est utilisé pour archiver par HR, finance, etc., qui lui est plus restrictif, mais PDF, là non plus, s'embrasse pas. Et il y a des docs qui sont payantes. Mais d'ailleurs, même la spécification officielle du PDF, maintenant, ça appartient plus à Adobe, mais c'est à ISO, donc il faut payer 200 francs suisses pour l'avoir, quoi.
Ouais, mais de toute façon, il y a très 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 peu de langages et de spécifications qui sont entièrement, enfin, dont les, pardon, il y a très peu de langages et de formats de fichiers dont les spécifications sont, comment dire,
Clairement.
complètement cohérentes et non, mais que tu peux implémenter et après faire de la preuve de programme sur tes implémentations.
Bah déjà, il y a ça. Et ensuite, après, effectivement, quand il y a un bug d'une largesse telle que vous vérifiez même pas si la signature est là, bah, c'est lettre morte, quoi. C'est pas un bug, quoi.
Ouais, mais attention, parce qu'il y a certains parseurs qui font ces choses-là parce qu'il existe des générateurs de documents ou de fichiers in the wild qui ont des défauts. En
Ah
fait, je sais
oui.
pas si tu prends toutes ces imprimantes virtuelles que tu installes sous Windows et qui te génèrent du PDF. Bah, si jamais celle qui est la plus téléchargée, alors je sais pas, je crois qu'il y a PDF Creator par exemple sur SourceForge, si jamais ce truc-là il a un bug et qui génère des documents PDF mal formés, toi, en tant que créateur de logiciels d'édition, enfin de lecture PDF, tu vas devoir supporter ces documents-là. L'utilisateur, il s'en fout que le PDF soit mal formé. Ce qu'il veut, c'est quand il clique sur le PDF qui vient d'imprimer, ça s'ouvre.
Je sais. Et justement, parfois, on fait une détection pour détecter un exploit en JPEG, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un fabricant de scanner qui nous fait des JPEG de taille infinie, qui était exactement la même taille que pour faire un overflow sur Internet Explorer, je crois. Donc, je suis bien au courant. Mais le problème, c'est qu'à aucun moment, on commence à dire, bon, ben maintenant, il n'y a pas la version parseur strict, un peu secure, un peu, tu vois. Bon, vous êtes gentil pour votre PDF Creator, mais il faudrait vous faire bouger les choses, tu vois. Il y a pas même pas de direction pour faire commencer à bouger les choses.
Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de la base de millions de fichiers qui existent actuellement, tu vois? Même si le logiciel est corrigé maintenant, faut vivre avec toutes les images et tous les PDF et tous les textes qui ont été générés de manière mal formée. Enfin, c'est vraiment un problème d'archivage numérique, quoi.
L'humanité est pourrie.
T'inquiète pas, dès que le courant s'éteindra, tout ça va disparaître.
Mais de façon pragmatique, qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent comme lecteur PDF qui fait le travail proprement, quoi, qui accepte pas de manger n'importe que quoi, entre guillemets. Sumatra
Ben,
PDF ou Adobe PDF ou un autre?
le lecteur PDF qui est dans Chrome, il est sandboxé.
Ah!
Ben, c'est oui, c'est clair, c'est pas encore une fois pour revenir, ça dépend de la vitesse que les gens veulent, l'exécution que les gens veulent, le nombre de features gérées, etc. C'est là, je dirais il faut changer de il faut les avoir tous, il faut changer régulièrement.
Alors, si on veut juste en fait afficher son PDF de manière la plus sécure possible.
N'importe quel logiciel, sauf celui d'Adobe. Parce
Sauf
qu'il n'y a que
si ta femme
Adobe.
est asiatique.
Que dis-tu?
Sauf si ta femme est asiatique et qu'à ce moment-là, les fontes japonaises, tu les as pas.
Il n'y a aucun logiciel tiers qui supporte les fonts japonaises. Je serais surpris que de leur côté, tu sais, ils ont les HWP, là, comment ça s'appelle, le processeur. Enfin, en gros, en Corée du Sud, ils n'utilisent pas du tout Office, Microsoft Office. Ils ont leur propre traitement de texte qui est souvent ciblé dans les APT. Un point HWP, ça génère, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je serais surpris qu'ils n'aient pas leur propre système de visualisation PDF. À moins qu'ils utilisent peut-être tous du déjà vu, mais.
Non mais enfin non mais juste côté technique, enfin côté exemple réel quoi. Si il y a un PDF à imprimer et parfois il manque des choses, enfin le PDF c'est quand même un truc monstrueux quoi. C'est quoi? 10 000 pages de doc en tout. Si on gère tous les sous-formats et tous les machins et tous les trucs comme ça quoi. La doc, le cœur du PDF est 700 pages, mais après si on veut s'amuser à gérer tout, c'est monstrueux et donc encore une fois il y en a beaucoup de payantes et donc en fait à part Adobe il n'y a pas beaucoup de des personnes qui essaient de tout gérer, qui s'embêtent à tout gérer. Bon heureusement Adobe réagit un peu plus côté sécurité etc. Mais sinon effectivement ouvrir dans Chrome ou dans un lecteur le plus obscur possible hein, sous Linux, peut-être ça suffira quoi. Et en plus, ce sera rapide.
Ouais, le plus gros problème qu'on rencontre dans les organisations, c'est les formulaires qui deviennent catastrophiques dès que tu les affiches sous autre chose que le logiciel pour lequel ça a été conçu.
Mais justement, c'est très très c'est très d'actualité là parce que on m'a envoyé un formulaire et en fait, il avait été quelqu'un avait comment ils a, un des participants l'avait déjà rempli avec toutes ses informations personnelles et elles étaient les gens s'étaient pas rendu compte qu'elles étaient sauvées dans le PDF, que c'était une possibilité, que c'est donc le PDF contenait les informations. Mais il y a beaucoup de viewers, tous les viewers Linux standards. J'ai sorti tout à l'heure là, j'ai sorti tout à l'heure une POC minimale pour que les gens essayent chez eux avec déjà des informations. Mais il y a beaucoup de viewers Linux qui la montrent pas ces informations supplémentaires, que les fields sont encore là avec le numéro de compte en banque et tout quoi. Et ça, c'est donc un leak réel qui est apparu cette semaine c'est pour ça que j'ai sorti un PDF exemple, donc les formulaires, donc non seulement pas gérés, mais en plus pouvant contenir des informations donc a priori confidentielles, et comme les logiciels, les autres viewers ne les affichent pas, ben leak accidentel, tiens, je t'envoie le PDF, ah ben en fait le mec il a déjà toutes ces infos. C'est ça aussi, c'est encore une fois pour revenir ta suggestion, le côté pratique. Donc si j'ai fait le test donc ce soir. Les formes, le contenu des formes, donc les champs étant encore visibles hein, sous, je crois, Evins, Chrome, Adobe, mais je soupçonne que seul Adobe permet de sauver, donc que tu rentres directement sous Adobe, tu sauves et le PDF ensuite tu peux l'imprimer avec tes informations. Les autres permettent de voir, mais j'imagine mal qu'ils permettent de modifier le PDF pour embarquer les informations que tu viens de rentrer, quoi. À tester d'ailleurs, mais bon.
T'es sûr que Foxit le fait pas? Parce que Foxit, ils sont assez avancés quand même en termes de PDF. Hein.
Oui, tu as raison, il y a Foxit aussi, mais Foxit te permet de les voir dans la version de base et ensuite il faut télécharger un truc pour éditer. Un truc pas c'est pas instant c'est pas direct quoi. Tu as raison, il est aussi dans les quatre là. C'était Chrome, Evins. Non, Evins justement, il est pas bon. Chrome, Adobe et
Foxit.
Foxit.
Elle était en train de me dire que en fait l'idée préconçue de dire les fichiers PDF c'est pas dangereux est vraiment mauvaise.
Qui dit ça?
Bah je sais pas, c'est beaucoup d'organisations ont dit bah par mail si je reçois un fichier PDF a priori c'est bon, ça ne peut pas être dangereux.
Enfin, je pense que de ce point de vue-là, déjà avec ce qu'avait fait Quarks Lab, là, leur origami PDF où ils généraient tout un tas de PDF à la con, c'est la démonstration a été faite que c'était dangereux.
Ok, donc on
Bah
peut
déjà,
renfoncer
je
encore le
m'intéresse
clou en
pas.
fait.
Je m'intéresse pas du tout à l'exploitation. Bon, la surface d'attaque est, je suppose, énorme. Bon, ça dépend du côté pratique, mais récemment, il y a quelqu'un qui disait on peut pas avoir d'image animée sur PDF. Bon, bah, il y a quand même le format U3D là qui permet d'avoir des objets en 3D visualisables directement dans le PDF sous Adobe. Et justement, il y avait un exploit là-dessus il y a quelques années. C'était pas utilisé trop in the wild parce que ça te parce que l'exploit était trop gros donc pour la taille habituelle d'un PDF malveillant, mais c'est juste ça qui a empêché. Comme il a donc la surface d'attaque côté PDF est énorme, les specs sont pas forcément hyper clairs puisque donc j'arrive encore à faire des schizophrènes. Tant que c'est pas du PDFA, on peut s'amuser. Et effectivement après chaque viewer a ses spécificités avec lesquelles on peut jouer. Et donc c'est quand même un format qui est bien. En plus, lui-même, en tant que structure, il y a des parties qu'on peut faire escape en octal, il y en a qu'on peut faire escape en hexa, mais pas en octal. Enfin, c'est quand même une belle, comment dire, on a beaucoup de formats les uns dans les autres avec différents standards. Sans jamais rajouter quoi que ce soit à la sécurité. Et en plus, on ne peut toujours pas faire d'image animée, donc c'est pas le meilleur des formats, quoi.
Et sur les histoires d'origami, justement, enfin, évidemment, il y avait des failles dans le lecteur avec de l'exploitation, etc. Mais ce qui était intéressant, c'était plutôt les trucs conceptuels derrière. Et il y avait deux trucs rigolos qu'ils avaient montrés. C'est un, tu peux chiffrer un PDF avec un mot de passe vide. Et donc, oui. En fait, il y a une fonction de dérivation de clé qui va te générer la clé AES correspondant au mot de passe vide. Et donc, ton PDF est effectivement chiffré. Donc, tu le passes sur une passerelle de messagerie, enfin, un truc de scan antivirus, il n'y voit rien. Par contre, le lecteur d'Adobe, quand tu cliques sur ton PDF, il essaye toujours le mot de passe vide comme mot de passe avant de te demander le mot de passe. Donc, en fait, tu cliques sur le PDF et il s'ouvre comme si de rien n'était.
Oui, c'est ça.
Il y a exactement la même fonction dans Office. Si tu chiffres avec le mot de passe Velvet Sweatshop, quand tu cliques sur ton document, il s'ouvre sans te demander le mot de passe. Et pourtant, il est intégralement chiffré. Des petites features que tu rencontres in the wild, mais c'est
oui, ben,
la RD des attaquants qui te permet de la découvrir.
Oui, le PDF, il a ce système de deux mots de passe, donc le user qui permet d'ouvrir ou pas, et l'owner qui permet de vraiment de déchiffrer ou pas. Et justement, les administrations, elles aiment bien... utiliser le mot de passe vide, et mais en même temps, elles mettent le flag pour interdire d'imprimer et interdire de copier-coller, des choses comme ça. Et évidemment, ça saute instantanément, quoi.
Il y avait un autre truc aussi rigolo qu'ils avaient montré, c'est qu'en fait, tu peux signer des PDF. Et alors, bon, je sais plus ce que ça t'apporte en plus, mais enfin, tu vois, tu fais de l'horodatage, des trucs comme ça. Et en fait, si tu as la version complète d'Adobe, donc pas le Reader, mais vraiment Adobe Acrobat, en fait, la clé privée est dans le logiciel. Parce que quand tu fais machin signé et tout, il y a la clé par défaut d'Adobe qui est dedans, quoi. Donc, c'est... Mais ça, il faut retrouver les slides qu'ils avaient présentés il y a 5-6 ans. C'était assez rigolo. À la fin, les trois trucs dangereux dans le PDF d'Adobe, qui sont supportés par aucun autre, c'est le U3D. Parce qu'effectivement, si tu utilises Archicad et que tu fais imprimer en PDF, tu peux sortir un plan de maison en 3D qui va être dans le PDF et tu pourras le faire tourner avec la souris, etc., quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. T'as le JavaScript qui a été largement exploité parce que tu peux faire des des actions sur Open ou sur. Dès que tu ouvres un PDF ou dès que tu navigues vers une certaine page, tu peux déclencher une action JavaScript. Et t'as le fait que tu puisses mettre des objets Flash à l'intérieur de ton PDF avec toutes les failles de Flash derrière. Donc, déjà, ces trois features, il n'y a que Adobe qui les a et c'est extrêmement dangereux. Alors maintenant, elles sont toutes plus ou moins restreintes. Par exemple, sur la 3D, tu dois cliquer sur le PDF, tu dois cliquer sur l'image pour déclencher le rendu 3D. Mais bon. Ça reste assez dangereux en termes de surface d'attaque.
Oui, de toute façon, c'est pas, ça va pas réduire, quoi. Et puis donc les formes, peut-être aussi, ça permet de. Ça aussi, c'est très largement utilisé. C'est très pratique d'ailleurs, quand même, on va dire. Et bah d'ailleurs, quand on est embauché, parfois on a signé un contrat électronique et c'est là aussi c'est de la signature de PDF. Justement, je me suis jamais penché sur le côté signature, mais bon, peut-être il y a des failles, quoi. J'explore pas les failles en général. Je cherche juste à découvrir et à construire des jolis fichiers artistiques.
En France, si tu veux signer ton contrat de travail numériquement, il te faut un certificat RGS V2, sinon c'est pas valable.
Non, c'est pas encore obligatoire dans le privé.
Ah, mais par contre, devant un tribunal, si tu veux que la signature soit opposable. Parce que la manière dont c'est fait actuellement, c'est quand tu signes un PDF, tu génères ton bitclé localement sur ta machine en allant dans Adobe et en faisant signer le fichier. Il te dit vous n'avez pas de clé, est-ce que vous voulez en générer une, quoi. Est-ce que ça a une validité devant les tribunaux?
Wait and see.
Okay.
Il y a différents modes de transport des fichiers. Je pensais aux bases 64, par exemple. Est-ce que tu as exploré ces aspects-là? Est-ce que ça apporte des choses en plus dans ta réflexion sur les formats de fichiers et leur exploitation éventuelle?
Parce que le base 64 c'est un algorithme, donc c'est pas, pour moi c'est pas un format de fichier même contenant. Donc je suis pas sûr ce que tu veux dire si.
Bah, par exemple, tu peux stocker dans une page HTML des images à l'intérieur de la page HTML. Tu peux stocker, enfin il y a plein de formats comme ça où tu peux stocker d'autres fichiers à l'intérieur des fichiers principaux. On parlait des zips tout à l'heure, mais ils sont un peu trop évidents. Mais est-ce que tu as déjà vu des exploitations où, par exemple, je sais pas moi, on arrivait à extraire quelque chose qui était a priori dans un texte et qui devient quelque chose d'exécutable dans un autre format ou
Donc c'est plutôt dans l'autre sens. Par exemple, quelque chose que j'ai fait aussi, c'est s'amuser à tricher, à truquer une image pour qu'en fait elle ait aussi un JavaScript valide. Ou alors dans le cas de données qui vont être manipulées par un site, et là donc c'est de l'attaque web, tu as du CSV et tu mets un JavaScript quelque part suivant l'encodage qui va être. Mais c'est spécifique à ce qu'en fait le site en lui-même, quoi. Ça me fait penser juste en faisant un alert pound et de mettre dans un fichier PE et tu avais l'analyseur en ligne de fichier PE qui extrayait les strings et qui se spawnait tout seul, quoi. Mais c'est pas spécifique à un format de fichier, quoi. C'est plutôt une histoire d'architecture de site web, quoi. En général.
Et le fait que un fichier texte basique, enfin la plupart des fichiers textes qu'on manipule, HTML, texte, tu cites CSV, etc. Tous ces fichiers, ils n'ont pas de signature. Est-ce que tu penses pas qu'on devrait imposer dans certaines architectures que les fichiers texte aient une signature au début et qu'on puisse les distinguer, les trier, etc. Au-delà de la signature qu'ils peuvent contenir dans la structure du document lui-même, hein, mais qui est un peu autre chose.
Oui, je me demandais de même que la plupart des gens sous Linux ont leur la première ligne qui est réservée pour définir quoi que ce soit. Je me demandais pourquoi si ça casserait pas des briques que tous les fichiers Python commencent par les lettres PY et des choses comme ça. Puis bon après c'est pas très très populaire hein, comme idée, mais bon ça permettrait effectivement d'éviter donc c'était quoi aussi faire un point htaccess qui est aussi un PHP et le htaccess se donne lui-même exécution. Et après, il y a le PHP, il y a le code, il y a le shell PHP à la fin du htaccess polyglotte, mais tous les deux en texte, quoi. Donc sympa, enfin efficace enfin solution efficace tout en texte. Et effectivement, si un PHP commençait par des lettres PHP, enfin non, bon PHP c'est un cas spécial, effectivement, c'est pas très bon pour la sécurité, mais si on imposait peut-être même pour les formats texte une signature, ça pourrait augmenter un peu la sécurité. Et justement, c'était ça une des idées principales. Bon, ben, l'HTML, c'est complètement pourri pour, c'est râpé, quoi. Ça a pas besoin. On peut mettre une page HTML à la fin après un gros fichier binaire. La page HTML va marcher quand même. Et au contraire, donc il n'y a pas du tout de signature imposée au déplacement zéro ni nulle part. Mais en plus, c'était ça qui m'a mis le pied à l'idée initiale, c'est qu'on avait eu une page HTML qui commençait par les lettres MZ, c'est la signature des formats PE, et hop, l'engine pensait que c'était un exécutable Windows, et ensuite elle trouvait rien de malveillant côté Windows, quoi, puisque c'était une page HTML en fait, avec juste les lettres MZ au début. Donc même les formats binaires commencent par des signatures en texte, hein, ça ne devrait pas être autorisé. Ça, je plaisante.
Moi, ceci dit, il y a eu quelques cas aussi de texte. Enfin, Dans l'idée, si tu es sous Linux et que tu cattes un fichier, en fait, s'il contient des méta-caractères, tu peux faire des trucs dans ton shell, quoi. Peut-être crochet, accolade, machin, en fait, tu peux changer la couleur du texte, voire même effacer des caractères. Et en fait, il y a quelques années, il y avait eu carrément un escape où, si tu étais sous X11 avec un Xterm, tu faisais cat d'un fichier et en fait, ça exécutait calque sur ta machine. Parce qu'il y avait un méta-caractère qui disait au Xterm de GNOME que la commande suivante, c'était un truc à lancer. Enfin bon, c'était. Donc juste en lisant un fichier texte sous Linux, tu pouvais exécuter une commande sur ta machine.
Oui, et puis c'est comme Zvaleski qui a fait l'exploit avec string, quoi. Parce que même faire string sur un fichier tout bête, en fait, tu vois qu'il y a un type d'identification de fichier. Ou même moi récemment, pour POCGTFO, j'avais un problème parce que Git voulait absolument me faire un diff intelligent des PDF et il avait du mal parce que c'était des PDF faits main. Et j'étais impossible de faire un git diff sur mes PDF parce que il voulait pas juste prendre ça comme du fichier texte, ni du fichier binaire. Il se disait, oh punaise, c'est un PDF, attends, je vais t'aider. Et après, ça partait. Voilà quoi.
C'est le attends, je vais t'aider, voilà, qui est souvent catastrophique.
Oui, c'est pour ça que string est exploitable, c'est pour ça que je crois que less aussi est exploitable, et donc git peut-être, hein, git exploitable sur un PDF foireux, oui, peut-être.
Mais tu sais que même Notepad est exploitable. Tu vas dans Notepad et tu fais un fichier qui commence par .log.
Ah oui, ça rajoute la date.
Ce que tu veux, tu fermes le fichier, tu le rouvres et tu vas voir, il fait du parsing en fait sur le texte qu'il y a dans ton notepad.
Oui. Rien ne va plus. Hein.
Il y a aussi les problèmes d'implémentation Unicode. Tu vas dans notepad, tu écris this app can break, tu sauvegardes le fichier, tu le rouvres et là, en fait, il interprète ça comme. Chaque paire de caractères représente en fait un point Unicode valide et donc il interprète ça comme l'Unicode et ton truc s'affiche pas, quoi. C'est
l'humanité.
Même les formats textes, on s'en méfie pas assez. Bah, t'as vu le coup qui est sorti aujourd'hui avec les 13 caractères là, qui peuvent cracher Chrome.
C'est Safari, en fait, non, en début de semaine dernière, en fin de semaine dernière, non? Safari, ouais, enfin, un truc comme ça, ouais.
Alors les 13 caractères qui peuvent faire planter Chrome, c'est quoi? Enfin, pas les caractères, mais c'est quoi l'idée?
En fait, t'as des caractères Unicode qui, enfin, en gros, si t'as pas de police assyrienne installée sur ton poste, quand il essaye de faire le rendu, en fait, ça plante et le truc se vautre. Parce que les caractères en question peuvent être interprétés comme des points Unicode en police assyrienne. Enfin bon, c'est anecdotique, mais c'est rigolo. Il y avait déjà eu un truc qui marchait il y a un an ou deux sous Mac.
Oui.
Tu avais une séquence d'octets, mais c'était fabuleux. Genre, si tu la mettais dans un SSID, par exemple, le mec essayait de se connecter à un réseau Wi-Fi, en fait, son Mac plantait, quoi. Enfin,
tout ça, c'est des exceptions qui sont pas prévues, quoi. Enfin, qui sont pas.
Ben oui, mais on n'essaie pas de renforcer. Enfin, voilà, l'Unicode, c'est le délire. Les fichiers texte, c'est le délire. Et même les formats binaires, après, parfois ça va, mais après, c'est les implémentations qui sont le délire.
Non, mais Unicode, c'est un véritable délire, hein, avec des encodages variables, les révisions de la norme, il y a des méta-caractères de contrôle, tu peux inverser le sens de l'écriture en cours de route, etc. Enfin, c'est...
Bah, heureusement, non. Faut que les langues puissent se parler entre elles.
Mais tu sais que dans les langues primitives, en fait, le sens de l'écriture alterne d'une ligne sur l'autre. La première ligne est de gauche à droite et ensuite le retour se fait de droite à gauche parce que les mecs ils sculptaient dans la pierre au fil de l'eau.
Ah, c'est bien ça.
En termes d'implémentation, genre tu supprimes une ligne dans ton texte, du coup tu dois inverser le sens de toutes les lignes. Enfin, c'est
moi qui suis gaucher, j'aurais apprécié.
Ah, justement, tu as eu des exemples avec des fichiers, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et est-ce qu'il y a parce que tu parlais des formats d'archives qui se prennent par la fin, mais c'est pas vraiment le fichier qu'on prend par la fin, c'est la structure qu'on lit par la fin. Mais est-ce qu'il y a des fichiers qui se lisent dans l'ordre inverse et qui pourraient être exploités? Quelque chose que tu as vu quelque part?
Non, je connais rien là-dedans. Ils ont quand même le bon sens. Enfin,
ouais.
J'ai rien de similaire là-dedans, dans tout ce que j'ai expérimenté, quoi.
Donc les langues qui changent de sens, ça s'appelle un boustrophédon. Voilà. Pour les auditeurs.
Ça fait très flag, CTF.
Et est-ce que tu as regardé du côté des formats de messages ou de des formats par exemple le format des SMS ou le format ASN1 ou d'autres types de formats qui pourraient
Non, pour l'instant, j'ai encore suffisamment de choses à explorer, hélas peut-être, mais je me suis limité aux fichiers, vraiment pas aux transmissions, pas aux paquets, pas aux protocoles, et vraiment les fichiers qu'on peut créer chez soi et ensuite lire avec le logiciel de direct, quoi, donc ni transmission ni protocole, voilà, quoi, ni paquet.
D'accord. Parce qu'il y a plein de portes là que tu pourrais ouvrir.
Ah oui, juste après avoir fait l'inscription, donc l'histoire de chiffrer un format dans un autre, on m'avait dit, regarde les protocoles de crypto, etc. Mais j'ai toujours pas eu le temps parce que j'ai toujours des idées farfelues qui bourgeonnent régulièrement, quoi.
Alors, est-ce qu'on peut espérer que les choses vont se structurer tant du côté des fichiers que du format des fichiers que des parseurs?
Ah, toi, tu veux tout réglementer, Johan,
Au moins, enfin, tu vois, là, j'ai l'impression que c'est un peu chaotique et que, comme tu dis dans ta conf, Ange, ne faites plus rien, quoi.
hein? Pour la sécurité, pour garantir votre sécurité, ne faites rien. Oui, bah c'est non, au contraire, j'ai l'impression que ça va pas du tout dans le bon sens, que justement, pour être sûr que les gens puissent ouvrir les formats mal générés, des gens qui ont mal lu les specs ou qui ont fait n'importe quoi d'il y a longtemps, les logiciels acceptent n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'en plus, ils tentent de réparer le fichier. Et c'est ça que j'abuse souvent avec mes PDF, c'est que on fait un PDF corrompu quelque part, mais ils ont vraiment l'habitude de se décarcasser pour reconstruire le fichier. Et ça, c'était largement utilisé par des attaques de virus parce que le fichier est pas valide du tout, mais le logiciel officiel, Office officiel, répare la structure et reconstruit et hop, se fait pas au nez tout seul. Donc, et ça, c'est carrément hors spec, quoi. Donc, ça arrive fréquemment que si je fais un PDF, il est correct, donc il est vraiment correct, et tout d'un coup, je fais un truc, ça marche pas. Ça, Adobe va le refuser. Par contre, je casse un élément exprès, je lui casse un doigt exprès, et là il est en mode récupération, et là il accepte le fichier sans le moindre warning, quoi. Donc il a carrément deux modes, le mode strict, le mode gendarme, et le mode oh la vache, on va tenter de récupérer des choses, quoi. Et ça, c'est pas du tout documenté. Donc on en vient donc à si tu répares un peu la structure, à ce moment-là il est plus valide. Si par contre il était bien pourri, là il était récupéré et pas ownable, sans warning ni rien, quoi. Et donc jamais de mode sécurisé te disant bon bah à partir de maintenant j'oublie le mode de réparation, quoi, des choses comme ça. Donc la surface d'attaque augmente. Les specs, on n'a pas de cloche à sonner pour dire elles sont pourries ou ce parseur respecte pas les specs. Et en plus, un seul logiciel est carrément schizophrène dans son comportement si le fichier est un peu corrompu. Donc non, ça va pas dans mon sens.
Bon, de toute façon, les formats de fichiers, ça n'intéresse plus personne.
Bah oui, il n'y a que moi, hein.
Non, mais je veux dire, dans le temps, la place était comptée, donc tu avais des trucs ou tu avais des demi-bits. Enfin, si tu regardes les spécifications de Zlib, par exemple, chaque bit sert à quelque chose. Tu as un bit qui va dire si l'octet d'après est facultatif ou pas. Bon, 20 ans après, on a inventé XML, quoi. Ou pour dire bonjour, tu as plus d'encapsulation que de texte utile, quoi.
Ouais, enfin, il y a toujours des tas de fichiers au format binaire assez imbitables et qu'il faut toujours récupérer quand tu fais de l'investigation, quoi.
Ah oui, d'accord, mais ça, c'est des trucs d'avant. Je veux dire, tous les gens qui font des trucs aujourd'hui, enfin, tu vois,
À
si
des
tu
nouveaux
regardes
formats, ouais.
le HTTP, le XML, le HTML, etc., tout ça, c'est du texte maintenant.
Ouais, enfin, l'encodage vidéo, tout ça, tu peux pas. Pour l'instant.
Mais
Ouais,
justement,
bah.
tu dois aimer Nicolas, le BPG là que j'ai utilisé dans POCGTFO, qui est donc fait par Fabrice Bellard, l'auteur de QEMU, et qui est très très compact. et qui a des bits sur un octet pour définir tel truc, et puis ensuite tu as d'autres bits sur un autre octet après qui pour continuer à donner des informations. Donc là, il y a aucune perte. Bon, il est censé être plus compact que JPEG, et il y a aucune perte, il y a rien du tout de, enfin c'est vraiment de l'intense, quoi. En conclusion, c'est quasiment, enfin, c'est vraiment illisible même avec un Iterexa. Enfin, mais en tout cas, c'est très très compact. Le JPEG, ça se lit facilement par rapport.
Mais il y a quand même deux trucs à bien prendre en compte, c'est le contenant et le contenu. Si tu regardes une vidéo, tu peux avoir un conteneur MP4, mais dedans un flux vidéo qui utilise un codec bon,
Tout à fait, ouais.
exotique.
Tout à fait. Oui, voilà, au
Mais
contraire, les conteneurs sont très très laxistes, et c'est du haut niveau. Par contre, après, c'est de la compression vidéo, et là, c'est carrément autre chose, et je m'en occupe pas. Pas besoin d'abuser ça, de toute façon. Moi, il suffit d'abuser le contenant, le Matroska, le MP4, etc. Et peu importe, on met ces informations malveillantes au milieu, et le codec, lui, il est toujours là. Ces informations, elles sont pas modifiées, quoi. Pas besoin de toucher là.
enfin, si je me rappelle bien, tu as quand même un cas sur les images, je crois que c'est les PNG, qui peuvent être palettisés ou trop colores. Et quand tu as les deux dans le même fichier, bah, du coup, suivant le logiciel que tu utilises, il va t'afficher la version avec les couleurs palettisées ou la version avec les couleurs trop colores. Donc en fait, tu n'as pas la même image à la fin qui s'affiche. C'est.
Effectivement, et on peut même aller plus loin avec les profils de couleurs. Donc, et ça, c'est le truc. Je pense que la seule raison pour laquelle les gens abusent pas ça de façon généralisée, parce que c'est trop compliqué au niveau théorie et au niveau pratique, parce qu'en fait, il y a très peu de logiciels qui gèrent ça. Déjà, le logiciel qui gère une image trop color avec une palette, j'en connais aucun. J'en ai cherché, ça fait partie des specs, mais j'en ai trouvé aucun de grand public ou quoi. Donc, parfois, effectivement, c'est tellement obscur que, effectivement, peut-être qu'il y a des logiciels professionnels qui les gèrent, ok, mais moi, je ne connais pas, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est limitant, comme surface d'attaque. Enfin, je sais pas, juste à titre d'anecdote, les polyglottes, puisqu'on est vieux, je pense que les premiers grands beaux polyglottes artistiques, c'était les disquettes qui étaient multiformat. Donc la même disquette marchait sur Amiga, sur PC, etc. Et là, c'était carrément au niveau magnétique, quoi. Donc il y avait plusieurs fichiers, etc. Et c'était ça, c'est l'ancêtre. Et ça, j'arrive pas encore, mais je bosse, je bosse.
Tu veux dire que des gens arrivaient à faire ça et que le savoir s'est perdu?
Le savoir, c'est pas forcément perdu, puisque maintenant il y a des jolis périphériques qui peuvent lire les disquettes au niveau magnétique et donc récupérer l'image compatible, par exemple Amiga, Atari, ensemble, quoi. Et ensuite, en dessous, lire la disquette au niveau binaire et ensuite la structure des fichiers, etc. Mais à un haut niveau qui permet de récupérer l'image vraiment magnétique de la disquette, quoi. Et justement, maintenant, on peut même les réécrire avec un simple périphérique USB. Donc ça, c'est pas, au moins il y a des nouveaux outils pour manipuler ça, alors qu'avant c'était des machines professionnelles de duplication que personne n'avait chez soi, quoi.
Sinon, j'ai une dernière question. Il y a des fichiers qu'on regarde souvent quand on fait des analyses criminalistiques. C'est les structures liées au système de fichiers lui-même. Donc, par exemple, la MFT dans NTFS ou d'autres types de fichiers qu'on retrouve typiquement sur les disques. Est-ce que tu as déjà regardé ces choses-là?
Justement, là aussi, non. Les systèmes de fichiers, ça fait aussi partie des choses que j'ai pas encore trop regardées, donc non, pas pour l'instant. D'ailleurs, tout à l'heure, tu avais dit, il y a beaucoup de formats de fichiers à gérer, notamment pour l'analyse forensique. Et justement, bon, récemment, j'avais fait un fichier qui n'était a priori pas standard, mais qui n'était, enfin, c'était un PNG pas standard. Et Encase, en fait, Encase, c'est pas eux qui font leur propre parseur de fichiers, ils utilisent Oracle Outside In, qui
Oui,
gère
tout à
plein de
fait, ouais.
formats de fichiers. Et effectivement, donc, Encase a le mode document et le mode view, et le mode document c'est Internet Explorer, et le mode view c'est Outside In. Et donc, je lui fournissais un fichier PNG qui était incorrect, et dans les deux cas, on avait
Donc c'est le même fichier, on devrait avoir aucune image parce que le fichier ne respecte pas les spécifications, mais au contraire, on a deux images différentes en fonction des vues de Uncase. Alors, certains disaient, ben, c'est quoi le problème? Il affiche tout le contenu alors que... Donc c'est encore mieux que la réalité, il arrive à voir tes deux images alors que pourtant le fichier est invalide, mais ce qui m'inquiétait c'est qu'ils ne mettent pas du tout le moindre avertissement concernant la structure du fichier, alors qu'il est a priori pas valable.
Ouais, c'est un problème qu'on a couramment avec l'affichage des JPEG par exemple, où suivant le visualiseur tu vas voir soit le thumb, soit la version haute définition, soit... une version dégradée parce que le truc arrive pas à la calculer, enfin c'est souvent une difficulté dans les logiciels de forensique, effectivement, ces histoires d'images. Alors c'est encore pire quand tu essayes d'afficher un doc ou autre qui est pas toujours interprété comme il faut par les visualiseurs. Donc il y a l'affichage lui-même, hein, c'est il y a pas que l'interprétation, l'affichage lui-même pour le traduire en information pour l'utilisateur derrière, qui est aussi quelque chose d'important. Tu peux prendre des mauvaises décisions à partir de ce qui est affiché à l'écran, sans que rien ne plante ni rien. C'est juste, tu crois qu'il y a rien, par exemple, et il y a effectivement quelque chose. Donc c'est un vrai souci.
Oui, c'est ça c'est ça qui m'inquiétait, c'est que ces logiciels ne disent jamais d'avertissement. Ils font leur boulot, ils extraient leurs informations, mais
c'est un truc qu'on essaye d'apprendre aux enquêteurs. On leur dit attention. Vous pouvez vous trouver dans beaucoup de cas avec des fichiers qui affichent des choses différentes suivant les visualiseurs. Donc les fichiers importants, normalement, ils doivent être extraits et affichés avec un visualiseur de confiance et pas forcément avec celui qui est inclus dans le logiciel d'analyse.
Ok, j'ai pas eu du tout cette réaction réfléchie, mais au contraire, j'avais des « qu'est-ce que tu essaies de prouver ?»« ça prouve rien », etc. C'était vraiment ça, quoi.
Dans les labos, par exemple, on a souvent plusieurs logiciels d'analyse forensique. Hein. Pour les dossiers les plus importants, tu les passeras sur au moins deux outils pour vérifier que t'as rien loupé, notamment dans l'arborescence des fichiers ou dans le carving. Mais aussi dans l'affichage des fichiers que tu parcours, évidemment, quoi. Okay. Et tout ce qui est images, en général, on les regarde toujours pour l'analyse définitive dans un visualiseur dédié aux images et qui n'est pas celui qui est intégré, qui permet juste de faire un regard rapide.
Mais dédié, enfin, il y a une garantie de sécurité, il y a une sorte ou pas vraiment, quoi.
Pas de sécurité, mais dont on sait à l'usage que il affiche correctement tous les formats d'images sans t'afficher juste le tome quand il y a l'image complète. Enfin, il y a plusieurs visualiseurs qui font ça assez bien et qui sont spécialisés dans le traitement des images. Mais ça traite pas les docs, ça traite pas les, ça ne traite que les images.
Ok.
Il y avait un outil. Je me rappelle plus le nom exactement, mais qui était assez efficace pour ça et qui permettait en plus de les afficher très rapidement, qui est une autre problématique.
Et les logiciels open source, c'est mieux que les trucs propriétaires ou pas en termes de ils font mieux que ou vraiment la question est vraiment mauvaise.
Disons que par exemple on va reprendre l'exemple du PDF et j'aime beaucoup certains visualisateurs open source. Évidemment, je les ai tous pour tester la compatibilité de mes créations, mais j'aime beaucoup certains visualisateurs. Par contre, au moment où il faut afficher un PDF qui a une image compliquée comme mes posters, ou au contraire chercher dans une doc rapidement, on voit que les gros logiciels ont quand même pris les gros logiciels propriétaires. En général, on fait l'effort d'avoir une recherche un peu plus moins exponentielle et des choses comme ça. Donc c'est encore une fois une question de quel résultat. Si c'est pour juste afficher une image, il n'y a pas besoin de grand chose. Si c'est pour un petit document, etc., il n'y a pas besoin de grand chose. Et si tout d'un coup on veut vraiment travailler avec des choses utilisant ces formats, difficile quoi de se séparer. Même sans aller vers les fonctions compliquées comme l'archivage, la signature. les formes, même juste une recherche dans une spec, ça peut prendre longtemps sur un logiciel qui a été fait un peu de cette fonction, sur cette partie-là a été fait peut-être un peu vite, quoi.
Ouais, j'allais dire que de toute façon, la majorité, enfin, une bonne partie des logiciels propriétaires te repackagent de l'open source, mais bon, ce serait être mauvaise langue. Non, écoute, merci pour ce premier essai au podcast. J'espère que ça t'aura donné envie de contribuer plus régulièrement sur tout un tas de sujets. On pourra faire une émission sur les bornes d'arcade, si tu veux.
Ah oui, ça m'intéresse.
Ah oui.
Ange, merci beaucoup de ta participation.
Merci à vous.
On mettra sur notre site le lien vers ton talk, que je recommande vraiment, super intéressant. Donc, merci bien. Merci à vous de nous suivre sur ce podcast. On vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.
Ciao.
Bye bye.